Vous écoutez RTL.
C'est vraisemblablement par cette porte située sur les berges de la Seine, à hauteur du pont Louis-Philippe, que sont entrés les malfaiteurs du 15 août. Qu'ils ont pénétré dans les égouts avec armes et matériel pour atteindre le mur de la banque. Un travail de professionnels bien sûr, mais la Société Générale fait également état de défaillances humaines, sans apporter pour l'instant des précisions concrètes sur ce point.
Bonsoir, les égouts du paradis. Tout le monde pense évidemment à Albert Spaggiari, le casse de la Société Générale à Nice lors du week-end des 16 et 17 juillet 1976. Un casse tellement célèbre qu'il a éclipsé son double, celui, un mois plus tard, en plein Paris, de la Société Générale de l'île Saint-Louis à Paris, une agence abritant notamment les coffres de célébrités du showbiz et de la politique. Ici aussi, les braqueurs sont passés par les égouts. Ici aussi, ils ont creusé des heures durant un passage, puis fait fondre les blindages de la salle des coffres. Sauf qu'ici, c'est le mystère total qui prévaut toujours plus de 40 ans après les faits. Le butin n'a jamais été connu avec précision, le contenu de certains coffres ouverts n'a jamais été réclamé. Les rumeurs les plus folles ou fantaisistes circulent sur ce qui a disparu. Qui plus est, les auteurs de ce coup spectaculaire n'ont jamais été retrouvés. Pourquoi le silence est-il si vite retombé sur ce casse? Que cherchaient vraiment les égoutiers de Saint-Louis? Question sur un casse oublié que nous allons poser ce soir à nos invités.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Ce soir dans l'heure du crime, le casse incroyable de l'île Saint-Louis à Paris à l'été 1976. Comme à Nice, un mois plus tôt, les braqueurs sont passés par les égouts. Ils ont eu tout le week-end pour vider la salle des coffres. Ce mardi 17 août 1976, en fin de matinée, une centaine de personnes s'agglutinent devant le numéro 26 de la rue Saint-Louis en Lille, dans le 4e arrondissement de Paris, le cœur historique et huppé de la City. Tout le monde attend devant la porte close d'un bureau annexe de la Société Générale. Il y a dans cette foule des curieux, des agents de police, des journalistes et surtout des clients inquiets. Parmi eux, quelques visages connus, dont celui du chanteur Georges Moustaki qui vient d'apprendre la nouvelle. La Société Générale a été cambriolée pendant le week-end tranquille du 15 août, deux jours où traditionnellement la capitale est déserte. L'agence étant fermée le lundi, c'est donc ce mardi matin que le casse a été découvert. On sait que la salle des coffres a été éventrée. Les 191 détenteurs de coffres ont été alertés un à un et priés de fournir un inventaire précis de ce qu'ils avaient déposé. Les cambrioleurs avaient parfaitement préparé leur coup. Ils sont passés par les égouts. Ils ont pénétré dans le réseau souterrain à 300 mètres de l'agence en fracturant une porte métallique au pied du pont Louis-Philippe. Ils ont cheminé en sous-sol avec leur matériel, notamment des lances thermiques qui percent le béton. 123 coffres fracturés, une soixantaine laissés intacts. Sans doute par manque de temps, les voleurs sont repartis par le même chemin. Un casse réussi est d'autant plus stupéfiant que un mois auparavant, les 16 et 17 juillet, lors du pont du 14 juillet, ce même scénario avait été inauguré en plein centre de Nice. Plus de 200 coffres pillés, des cambrioleurs empruntant le chemin des égouts après avoir pataugé dans les eaux du Paillon, une rivière souterraine. Butin officiel 46 millions de francs à l'époque. Une affaire où va vite apparaître une équipe de perceurs de coffres chevronnés et un personnage fantasque, un petit photographe de quartier qui revendiquera le coup du siècle, un certain Albert Spaggiari. C'est lui qui aurait laissé en guise de signature l'inscription « Ni armes, ni violence et sans haine » qui fera sa célébrité. Pas de slogan laissé dans la salle des coffres de la Société Générale de l'île Saint-Louis, simplement du matériel, des bouteilles d'oxygène et d'acétylène, des bottes, des masques à gaz, des lampes de cheminot, un matelas pneumatique et deux pistolets mitrailleurs destinés sans doute à couvrir une fuite précipitée. Bonsoir Brennan Kemet.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste et co-auteur avec Stéphane Selamy d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Maghreb Connection aux éditions Robert Laffont. Alors, livre très très bien documenté, absolument à lire sur... C'est un qui fait la saga finalement secrète du grand banditisme français, c'est comme ça que vous le présentez. Ce sont plusieurs histoires, et parmi ces histoires, évidemment, il y a cette histoire du casse de l'île Saint-Louis. Nous allons détailler, évidemment, les tenants et aboutissants de ce fric-frac, voir pourquoi l'opération a si bien réussi, et qui peut se cacher derrière ce gros coup. Pour l'heure, ce 17 août 1976, c'est la stupéfaction. C'est même le gros titre, je crois, des journaux du soir, de la télé.
Stupéfaction, oui. Scandale même, puisque assez vite, il va paraître que la Société Générale ne s'est pas forcément prémunie de ce type d'affaires. Et puis ça arrive, vous l'avez dit, un mois pile après le casse monumental de la Société Générale, déjà à Nice. Donc tous les éléments du scandale sont là. Et puis on est sur un site quand même qui est sensible, qui est le cœur de Paris, extrêmement touristique. Et c'est assez étonnant que pendant plusieurs jours, des ouvriers, on va dire qualifiés, se sont employés à faire beaucoup de bruit en sous-sol.
Oui. On va venir à ce bruit d'ailleurs qui est un peu intriguant et qui posera des questions et des problèmes. Vous parlez du cœur du Paris, c'est pas n'importe quel quartier, hein, ce quartier de l'île Saint-Louis, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit assez chic, et même à l'époque, déjà à l'époque, pardon, il y a des personnalités qui habitent là. J'ai cité le chanteur Moustaki, mais c'est une banque aussi qui est fréquentée par des célébrités.
Alors, Moustaki habite dans le même immeuble, en fait, et il habite au dernier étage. Et puis, tout autour de l'île, il y a des personnalités. Alors, on ne sait pas, hein, évidemment, il y a le secret bancaire, on ne sait pas exactement qui avait un compte là ou un coffre là, mais en tout cas, sur l'île habitait la famille Pompidou, Madame Pompidou, qui était une riveraine. Il y avait aussi la famille Rothschild qui s'était installée dans un magnifique hôtel particulier très peu de temps auparavant. Il y avait l'avocat, futur ministre Roland Dumas, avocat aussi du Canard Enchaîné quelques années plus tôt, là, donc avec l'affaire, on va dire, des écoutes du Canard Enchaîné. Il y avait toutes sortes de personnalités, comme ça, showbiz, effectivement, et bohème, artistique. Quoi.
C'est ça. Alors, j'ai très brièvement raconté le cheminement de ces braqueurs. Braqueur très bien renseigné, ça aussi on va en parler. C'est pas par hasard qu'il déboule dans cette agence bancaire. Racontez-nous, Brendan Kemet, ce cheminement par les égouts, parce que c'est d'abord il y a plusieurs personnes, une dizaine, c'est ça?
Oh, ils étaient certainement, une bonne dizaine, avec des veilleurs, probablement des guetteurs. On ne sait pas exactement, puisque personne n'a été arrêté et personne n'ont pas été pris, évidemment, sur le fait. Ce qui était assez génial, c'est qu'ils avaient trouvé une porte, en fait, d'accès sur les quais de Seine, en fait, exactement, qui leur permettait de gagner les égouts. Et alors, évidemment, les égouts dans une île ne sont pas enterrés, ils sont à hauteur de quai, vous voyez. Donc, ils arrivaient très rapidement sur ces égouts. Il faut quand même connaître les lieux, parce que c'est des dédales, il y a plusieurs rues, même si c'est pas sur l'île Saint-Louis, donc il fallait tout cheminer quand même 300 mètres, c'est pas rien, sous terre, et puis surtout descendre
du matériel
énorme de matériel, hein, c'est un vrai chantier de destruction lourde, hein, qui a eu lieu.
Je parlais des lances thermiques, ça se manie pas comme un simple petit chalumeau, une lance thermique, c'est un outillage important et difficile à manipuler aussi, il faut être spécialisé.
Ça a longtemps été l'arme fatale des casseurs, hein, de banque, parce que c'est une invention assez récente qui a été utilisée notamment pour démanteler des chars après la Deuxième Guerre mondiale, puisque ça découpe l'acier.
Perce le blindage, c'est ça.
L'acier, ouais, tout à fait, le blindage et aussi le béton, quoi. Mais c'est un maniement extrêmement sensible, parce que ça monte à 4000 degrés et il fait extrêmement chaud, donc il faut aussi prévoir des évacuations d'air. Il y a tout un système à mettre en place.
C'est évidemment un travail de spécialiste. Encore une petite question, Brendan Kemet. Évidemment, on pense que c'est peut-être la même équipe qui a fait le coup de la Société Générale à Nice, où on n'a pas arrêté tout le monde, loin de là, et puis le coup de l'île Saint-Louis. C'est naturel.
C'est exactement le même mode opératoire, et il est probable et possible qu'il y ait des liens entre les deux affaires, voire même des participants en commun.
La police judiciaire parisienne, les fonctionnaires du 36 quai des Orfèvres sont à pied d'œuvre. Ils ne peuvent que constater que ce travail a été accompli dans les règles de l'art. Pas d'indices, pas d'empreintes exploitables. Il va falloir partir à la chasse aux indices. Seuls des professionnels expérimentés ont pu mener à bien une telle opération. De toute évidence, les voleurs étaient très bien renseignés. Ils ont dû faire des reconnaissances précises, à croire qu'ils n'en étaient sans doute pas à leur coup d'essai. Le directeur adjoint de la PJ parisienne, le commissaire Gustave Jobard, confirme ces constatations à la télévision. Pour cheminer dans les égouts, il faut avoir une parfaite connaissance de la topographie des lieux. Une équipe qui aurait donc des compétences multiples, des architectes qui ont tout imaginé, des maçons qui ont percé les murs, des membres du milieu qui fourgueront bijoux et valeurs. De toute évidence, l'équipe s'est concentrée sur l'argent liquide, lingots et pièces d'or, même si des documents et des photos ont sans doute été emportés. Les braqueurs ont abandonné sur place un petit tableau de Pisanello, un peintre toscan du 15e siècle, trop fragile et trop compliqué sans doute à négocier. Des professionnels qui savaient que la banque disposait d'un système électronique pas encore relié au commissariat le plus proche, mais qui ont pris des risques avec les vigiles. Des vigiles qui, au cours de leur ronde, ont perçu des coups assourdis, senti aussi un peu de fumée, mais ont attribué tout cela à l'extracteur du restaurant mitoyen, l'Orangerie, propriété de Jean-Claude Brialy. La PJ dispose évidemment d'une liste de suspects potentiels. Elle connaît les professionnels du chalumeau et de la lance thermique. Permettez-moi d'être discret car l'enquête ne fait que commencer, abrège toutefois le commissaire Jobard. À y regarder de plus près, il s'avère qu'un drôle de personnage se trouvait au milieu des clients éplorés mardi 17 août quand la nouvelle du casse a commencé à se répandre. Un homme qui s'appelle Guy Pelletier, mais que tout le monde connaît sous le sobriquet de Titi. C'est un habitué des tribunaux, il est bien connu de la police, son nom ne va cesser de se retrouver en filigrane du casse de l'île Saint-Louis. Une trajectoire criminelle étoffée, pas vraiment un farfelu, en dépit des apparences, mais un vrai dur, selon certains. Il a fait partie du gang des Siciliens, fréquenté le kabyle Nénès Benasser. Sa réputation de gangster violent est même venue aux oreilles de Jacques Mesrine, qui est alors en prison à la santé. Titi Pelletier serait-il l'homme qui a organisé le casse des égouts? On vous retrouve, Brandon Kemet, invité ce soir de l'heure du crime, avec la sortie du livre que vous avez écrit avec Stéphane Selamy, Maghreb Connection, aux éditions Robert Laffont, dans lequel vous consacrez un long chapitre à ce casse spectaculaire. Alors on va revenir à ce fameux Titi Pelletier, parce qu'il est très intéressant et ça va être un des personnages clés de cette histoire. Je voudrais tout de même, avant tout, Brandon Kemet, que vous nous parliez un petit peu de cette sécurité défaillante de la Société Générale, avec ces vigiles, quand je lis dans votre livre, c'est absolument effarant, qui ont tout entendu, qui ont tout senti, les odeurs, etc., de fumée, qui ont presque tout vu, mais qui finalement ont laissé tomber. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah oui, c'est vrai que c'est assez stupéfiant de penser qu'ils ont fait, ces vigiles ont fait plusieurs rondes dans le week-end, ont entendu des bruits, sont descendus dans les caves mitoyennes pour voir s'il n'y avait pas quelque chose, mais à aucun moment n'ont accédé à la banque en fait. Et à partir du moment où les casseurs étaient déjà entrés par les égouts, c'est-à-dire sans passer par les caves, ils étaient invisibles. Donc c'était une sorte de piège pour les vigiles. Ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas intervenir. Ils sont même allés, on a dit à l'époque, ils sont quand même allés vérifier les bruits. Ils sont même allés monter dans les étages chez quelqu'un.
Avec un pompier, je crois.
Il y avait un pompier, effectivement. Hein. Alors on voit la préparation parce qu'ils sont allés chercher une lampe dans un restaurant voisin. Mais ils sont montés dans un étage où des gens étaient en train de faire des travaux, en train de mettre des clous au mur.
C'était ça, le bruit.
Oui, enfin, ça paraît assez peu convaincant quand même.
Ouais, hein. C'est vrai qu'on reste un petit peu sur sa faim. En tout cas, c'est peut-être pas une équipe de vigiles qu'on embaucherait aujourd'hui. On parlait de braqueurs chevronnés. Un petit mot, Brandon Kemet, sur... Il y a eu un précédent à Paris. On l'a oublié aussi complètement. Rue Meyerbeer, quartier de l'Opéra. 6 mois plus tôt, c'est ça?
Alors
c'est presque une répétition, on dirait.
C'est exactement ça, c'est une répétition. On voit que c'est la mode à cette époque. Ils ont compris, quelques voyous, comment faire, comment pénétrer dans ces banques. qui était souvent difficile d'accès par l'extérieur, par les portes avec des alarmes. Et effectivement, c'était la banque Hervé, qui était une banque privée et qui est tout près de l'Opéra, rue Meyerbeer, et avec exactement le même cheminement depuis les égouts. Et c'était donc avant le casse de Nice, donc c'était même le premier casse réussi par des termitiers.
C'est le premier casse, effectivement. C'est le père des casses des égouts, finalement, c'est cette rue Meyerbeer. Et effectivement, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir un lien entre ces équipes. Là, on a presque trois équipes. Il y a certainement des connexions entre ces trois équipes, des personnes qui ont participé peut-être aux trois coups.
Alors, c'est possible. Absolument, parce qu'il y avait eu aussi une attaque infructueuse à la poste, dans une poste de la place d'Italie en décembre, c'est-à-dire un mois avant la banque Hervé. Donc ça fait quatre casses qui ont été commis dans un temps très restreint. Et moi, je le tiens de la bouche d'un des participants du casse de Nice qui m'a dit qu'il était allé à Paris, dans le 13e arrondissement, mais ils avaient mis le feu, en fait, aux égouts car à cause de toujours des lances thermiques. Donc effectivement, il y a des liens entre toutes ces affaires.
Ouais. Donc c'est clair, effectivement, le trait d'union est établi. Alors, encore une question, Titi Pelletier, cet homme qui parade là au milieu des clients, d'ailleurs qui a l'air éploré lui aussi, qui s'amuse sûrement de ce spectacle, c'est pas n'importe qui.
Alors c'est un personnage très étonnant et méconnu du milieu qu'on a essayé de raconter parce que d'abord c'est quelqu'un de très malicieux et très dangereux, quelqu'un qui a beaucoup tué, qui n'avait pas de voilà, qui a eu du sang sur les
mains, ouais.
Et qui en même temps était très proche du showbiz. C'était un ami intime de Johnny Hallyday
et de Carlos
enfin de ce monde-là. Il a assuré la sécurité de gens du showbiz, et puis ça a été surtout alors dans la délinquance un formateur des jeunes générations. De beaucoup de jeunes voyous qui sont devenus, et notamment ces voyous de la Maghreb Connection, qui sont devenus plus tard des redoutables casseurs et braqueurs, qui sont vraiment été formés par ce Titi Pelletier qui a disparu après dans des circonstances assez troubles.
On ne sait pas ce qu'il est devenu, Titi Pelletier.
Il a été victime du milieu, il a disparu, il a été tué, et puis probablement, alors détail assez horrible, qu'on nous a confié, jeté dans un tonneau dans la Marne, à hauteur de Joinville-le-Pont.
D'accord, règlement de compte typique du milieu. Alors, ce Titi Pelletier, il faut quand même le dire, il apparaît dans le casse. Hein. Les témoignages que vous avez pu recueillir, à chaque fois, il est cité, il faut bien le dire.
Il semble que c'était la tête pensante de ce casse. Il y a un consensus autour de son nom, il y a d'autres personnes. Il y avait aussi le commissaire Aimé Blanc, qui était le chef de l'Office
central. Qui va recueillir, lui, des témoignages. Et on va y revenir dans le chapitre suivant. Le fait est, c'est que Titi Pelletier, il est incontournable, si je puis dire, dans ce casse de l'île Saint-Louis. Hein, on peut le voir comme ça.
Oui, c'est quelqu'un de malin et sans doute le défi un peu et de faire ça au cœur de Paris devait faire partie du plaisir, je pense, de l'aventure.
Des hommes soupçonnés, peut-être, mais pas de certitude. Impossible d'identifier ceux qui ont braqué la banque de l'île Saint-Louis. L'argent s'est envolé, même si une partie va toutefois refaire surface au détour d'un bureau de poste. Le juge d'instruction Jean Cornuau, un magistrat qui a traité déjà les dossiers Villoquet et Messrine, est contraint de constater que rien ne remonte dans l'enquête de l'île Saint-Louis. Les indices semblent aux abonnés absents et quelques vieux chevaux de retour du braquage ont tous des alibis parfaits. Aucune arrestation pendant les deux premiers mois jusqu'à la mi-octobre. Et enfin une bonne nouvelle pour le juge, un mécanicien portant le nom prédestiné de Raymond Brisacier, 40 ans, a été interpellé à la sortie d'un bureau de poste dans le 12e arrondissement. Il s'était présenté au guichet pour y échanger des bons du Trésor, lesquels, selon les numéros, proviennent du CAS de la Société Générale. Brisacier s'est fait bêtement repérer. Il est désormais entre les mains du commissaire divisionnaire Camille Bouvier, le chef de la BRB, la Brigade de Répression du Banditisme. Il apparaît que Brisacier a déjà échangé des bons dans divers bureaux de poste pour un montant de 12 millions de francs. Il dit avoir reçu ces valeurs d'un homme qu'il ne connaît pas, rencontré dans un café et qui lui a demandé d'échanger tout ça. Il est établi que Brisacier n'a pas participé au CAS. Le mécano est écroué, mais il ne dira plus un mot. Après ce coup d'épée dans l'eau, le juge fait dresser une liste exhaustive des spécialistes du perçage de coffres et demande que l'on secoue les indices, mais les résultats sont décevants. Le commissaire Lucien Aimé Blanc, alors chef de l'OCRB, la lutte contre le banditisme, racontera avoir recueilli un tuyau intéressant auprès de l'un de ses informateurs les plus bavards. Celui-ci lui aurait donné les noms des casseurs de grosses pointures de la banlieue sud comme Willy de Brabander, José Homme ou encore le fameux Titi Pelletier, celui qui paradait devant la banque à l'annonce du casse. D'autres noms vont apparaître au fil des années, comme celui de l'Algérien Madani Oufani, alias Balou, un costaud qui aurait accompli un travail de titan dans les sous-sols de la banque, une tâche tellement harassante que les braqueurs avaient amené sur place un matelas gonflable pour se reposer entre deux tournées de masse et de lance thermique. Aucun de ces hommes ne sera rattrapé par la police et aucun d'eux n'aura des comptes à rendre dans cette affaire. Brennan Kemet, auteur avec Stéphane Selamy du livre Maghreb Connection, dans lequel vous revenez sur cette histoire du casse de l'île Saint-Louis. J'ai cité quelques noms dans cette histoire qui sont d'ailleurs dans votre ouvrage et que vous allez suivre la trajectoire évidemment. On a parlé tout à l'heure de Titi Pelletier. Quels sont les noms les plus importants que l'on vient de citer et qui apparaissent comme peut-être les organisateurs du casse?
Alors, il y avait deux voyous importants du gang de la banlieue sud. Hein, donc, José Horn, dit Galoche, qui est décédé. Et puis, un autre dont on ne citera pas le nom, qui est toujours vivant, mais qui n'a jamais été inquiété pour cette affaire. Donc, c'est un monsieur maintenant qui a 70 ans, qu'on a essayé de faire parler, parce qu'il a certainement beaucoup de choses à raconter. Mais voilà, mais
vous n'y êtes pas parvenu.
Il n'a pas voulu, ouais. C'est quand même des gens qui restent assez discrets sur leurs exploits, entre guillemets, même très anciens. Quoi. On nous a juste fait dire qu'ils ne voyaient pas de quoi on voulait parler. Quoi.
Oui, on le comprend peut-être, enfin en tout cas, peut-être il n'y est pour rien non plus, donc il n'a peut-être pas envie de se rappeler à tous ses souvenirs. J'ai cité aussi l'Algérien, Madani Oufani, alias Balou. Alors lui, vous le décrivez très bien dans votre livre, c'est vraiment le colosse qui va être quasiment au fond de ses égouts, si tant est qu'il y fut.
Bah, lui n'a pas été non plus mis en cause, on va dire, officiellement. Bon, maintenant, c'est quelqu'un qui est décédé. Nous, c'est un nom qu'on nous a glissé par des témoins, on va dire, très bien informés, effectivement, de cette époque. Balou, oui, comme le personnage de Walt Disney, dans le livre de la jungle, le costaud, parce que c'était quand même un travail, malhonnête, mais un travail très important. Il fallait, dans un temps réduit, creuser plus de 5 mètres à travers de la pierre, dans une chaleur absolument suffocante. C'était, bon, sans vouloir évidemment dresser des lauriers à ces personnages, mais bon, c'était quand même un petit exploit. Et puis, ils ont dormi sur place, ils ont mangé sur place, ils ont laissé des... On a vu une témoin qui nous racontait qu'il se souvenait d'avoir vu des bouteilles de vin, notamment. Donc
comme à Nice,
voilà, exactement. Ouais, c'est ça, on se détendait entre des coups de pioche. Et puis, il y avait une anecdote qui concernait ce personnage Balou, là, qu'on nous a aussi confié. C'est-à-dire qu'au milieu de la nuit, le fameux Titi Pelletier s'est réveillé en sursaut parce qu'il y avait une lumière bleue de gyrophare dans un des tunnels. Et en fait, il a cru qu'ils étaient faits, hein, comme on dit, hein, en argot, qu'ils étaient coincés par la police. Et en fait, c'était le dénommé Balou qui avait un gyrophare, en fait, effectivement, de police qu'il avait mis sur sa tête pour éloigner les rats.
Parce que,
évidemment, il y a beaucoup de rats aussi dans les égouts, il y a beaucoup de monde. Voilà, donc il avait la phobie des rats. C'était un petit moment de détente dans cette entreprise, on va dire, titanesque.
Alors, Brennan Kemet, évidemment, il y a une dizaine d'hommes qui creusent, qui font du bruit dans ces tunnels, qui, comme vous le dites, se restaurent, qui dorment. Ça va durer 2 jours, cette histoire. Il n'y a pas d'empreinte ? Il n'y a pas de traces ?
Alors, c'est une époque où, quand même très...
L'ADN, on est d'accord.
Oui, très éloigné.
Pas, mais...
Bon, après, est-ce que on a mis les moyens à l'époque de trouver des empreintes sur des outils? Visiblement, il n'y a pas eu d'empreintes, en tout cas, qui sont remontées. Mmh. Après, C'était aussi dans des. Il y avait quand même de la chaleur. Est-ce que des traces ont disparu? Je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, rien n'a permis d'identifier qui que ce soit. Ouais, ça, c'est sûr.
Puis ce qui est sûr aussi, c'est que, évidemment, le commissaire Lucien Aimé Blanc, qui est disparu aujourd'hui, il est mort lui aussi. À l'époque, il a un bon indice, apparemment, qui lui livre quand même beaucoup d'informations. Mais les indices, ils n'ont pas parlé sur cette histoire. Hein. Ils ne sont pas beaucoup manifestés.
En tout cas, cet indique avait donné une liste presque exhaustive des participants, mais ça n'a pas suffi à les coincer, visiblement. En tout cas, c'est vrai que c'était un échec de la police, de la fameuse police judiciaire du 36 quai des Orfèvres, hein, de la BRB. Mm-hmm. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'on a un peu moins parlé de cette affaire, qui était un échec retentissant. On n'a jamais retrouvé ces personnes et on n'a jamais retrouvé le butin. Donc.
Et l'indique en question dont vous parlez, il a mal fini lui aussi. Hein, il a été exécuté. Quelques années plus tard, dans un règlement de compte, je crois que c'est ça.
Oui, alors c'est un personnage extrêmement intrigant qui s'appelait Jean-Pierre Mayon-Libaud, qui était un personnage qui a été proche de l'extrême droite, de l'OAS, qui a fait des assassinats, on va dire, politiques. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, c'est lui, le commissaire Aimé Blanc a décrit dans cette scène où en fait il est dans un cabaret et il voit arriver un type et son indique lui dit: tu sais qui c'est celui-là? C'est Willy Brabander de la banlieue sud, c'est celui qui a fait le casse de la Société Générale de l'île Saint-Louis. Et il faut savoir quand même que Jean-Pierre Mayon-Libaud était un ami de ces gens-là, en fait, c'était leur complice. Donc on voit bien que dans ce milieu, on se dénonce quand même à qui mieux, quoi.
Des recherches qui ne donnent rien et des braqueurs bien trop chevronnés et bien trop malins pour ne pas se faire remarquer. La plupart sont introuvables, fondus dans la nature. Ils peuvent profiter de l'argent du casse et préparer d'autres coups. Les années vont défiler sans que les auteurs de ce fric-frac en sous-sol ne soient démasqués. Au fil du temps vont toutefois surgir des confidences permettant de reconstituer plus ou moins le puzzle de l'organisation. Un patron de bar de Montreuil, Petit Mimi, âgé de 28 ans en 1976, confiera ainsi à la journaliste Patricia Touranchot que les égoutiers n'étaient sans doute pas venus uniquement pour l'argent. Ils auraient également emporté des documents appartenant à la famille Pompidou et à la famille de Gaulle. 8 ans auparavant, Claude Pompidou s'était retrouvé malgré elle sali par un scandale à caractère sexuel, l'affaire Markovic. Petit Mimi racontera encore que ces documents sensibles avaient été monnayés à l'époque auprès du maire de Nice, Jacques Médecin, des pièces qui auraient pu être utilisées comme moyen de chantage. Histoire jamais confirmée par l'enquête de police, le profil de Willy de Brabander, parfois présenté comme l'un des cerveaux du casse, suscitera lui aussi bien des interrogations. Un homme proche de l'OAS et de l'extrême droite, un gros bras utilisé pour certaines opérations de basse politique. Jamais un casse n'aura été aussi opaque. 24 ans après, les égouts de l'île Saint-Louis gardent tout leur mystère. Braquage classique ou entreprise destinée à trouver au fond d'un coffre des documents compromettants? Ceux qui le savent sont morts ou continue de respecter le pacte du silence. Brendan Kemet, auteur avec Stéphane Selamy de Maghreb Connection aux éditions Robert Laffont, et vous êtes notre invité ce soir dans l'heure du crime. Ça, c'est une piste intéressante, cette piste politique, avec ces coffres qui auraient été forcés, même si elle ne tient que sur certaines déclarations.
C'est une piste intéressante, c'est une piste, on va dire, croustillante. C'est pas une piste non plus impossible. Enfin, je veux dire, elle est aussi réaliste par la proximité, de la famille Pompidou qui habitait dans un hôtel particulier à 200 mètres de la banque, sur les quais de Seine, sur l'île Saint-Louis aussi, côté sud, quoi. Et puis il y a tout ce contexte. On est quand même dans un contexte politique, les années Giscard, la lutte entre, on va dire, les giscardiens et les gaullistes. On peut peut-être supposer, hein, on sait que des gros bras ont assuré le service d'ordre de Valéry Giscard d'Estaing, des gens qui étaient issus du milieu pour sa campagne de 1974. Donc, est-ce que ça peut s'inscrire là-dedans? C'est pas du tout impossible. En tout cas, la personnalité, comme vous l'avez dit, de Willy de Brabander, qui est un truand.
Alors, un mot là-dessus, parce que on parlait tout à l'heure de l'indic, le fameux indic qui a balancé ses copains. Vous nous dites il frayait avec l'OAS, etc., l'extrême droite, à l'Algérie française, pour résumer. Là, de Brabander, c'est pareil. On est dans la même coloration politique, presque.
C'est un personnage assez méconnu et mystérieux, mais en tout cas, selon les renseignements et les témoignages qu'on a pu reconstituer, c'est quelqu'un qui aurait fait des contrats, hein, qui aurait fait des assassinats politiques pour le compte, ou alors de l'OS, ou des rescapés de l'OS. Ça donne une coloration assez curieuse. Mmh. Ce que disait effectivement cet autre participant présumé, on va dire, le petit Mimi le Kabyle, qui avait été cité par Patricia Tourangeau dans son livre sur les postiches, c'est qu'ils avaient récupéré effectivement des documents
confidentiels. Oui, ça, il est affirmatif.
Il est très affirmatif. Après, il y a une nuance en disant que une partie des voyous ne s'intéressaient pas à ça et qu'ils étaient vraiment là pour prendre l'argent et les lingots. Quoi.
Oui, mais j'ai envie de vous dire les deux, mon général, parce que parfois, un casse en cache un autre. Il y a parfois des casses qui sont organisées et qui sont un écran de fumée. Et finalement, l'objectif premier des organisateurs, c'est un certain coffre et pas tous les coffres, même si on se laisse les autres coffres à ses complices pour s'amuser. Vous êtes d'accord, Brandon?
Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit très souvent et qui revient sur ce type de casse. Et c'est vrai que j'ai en mémoire un peu plus récent, Avenue de l'Opéra, il y a une dizaine d'années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses très très étonnantes dans ces coffres et qui ne sont pas du tout répertoriées ni inventoriées. On trouve souvent des photos compromettantes, des objets de chantage, etc. C'est quelque chose visiblement d'assez commun.
Tout à fait. D'ailleurs, ces coffres-là, on remarque qu'ils ne sont pas réclamés. En tout cas, qu'ils ne font pas l'objet d'une attention particulière de la part de leur propriétaire, si je puis dire. Il n'y a pas de recherche entreprise. Alors, Brennan Kemet, pourquoi, avec Stéphane Selamy, avoir choisi de raconter cette histoire dans votre livre qui s'appelle Maghreb Connection? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est là en 1976, c'est le début d'une épopée pour la Maghreb Connection, justement?
Absolument. Pour nous, ça fait partie des affaires emblématiques où ce milieu, on va dire maghrébin, algérien essentiellement, qui était jusqu'alors cantonné dans le proxénétisme et la prostitution pendant des années, a commencé à monter, entre guillemets, sur des grosses affaires et a été en fait initié par des gens comme Titi Pelletier, qui est d'abord comme soldat, comme ouvrier, comme gros bras, comme le fameux Balou. Mais ils vont en fait, à partir de ces casses-là, voler plus tard de leurs propres ailes avec en fait ces connaissances et ce savoir-faire criminel.
Ouais. Titi Pelletier, il va fédérer finalement une nouvelle école de gangsters. Enfin, il n'est pas le seul, mais la banlieue sud, par exemple, ça va émerger et prospérer.
Absolument. C'est un personnage incontournable du banditisme français et parisien, puisque effectivement, il va tourner avec des gens de la banlieue sud. Et puis, quelques années plus tard, on le retrouve avec des gens de Montreuil, des personnalités qui sont toujours vivantes aujourd'hui, notamment un qui est surnommé la Gelée et qui est réfugié à Oran, voilà, qui a été, on va dire, qui est une haute personnalité du milieu parisien. Et puis, un autre aujourd'hui qui est, on va dire, sorti de prison et qui n'est plus impliqué dans ce type d'affaires, qui s'appelle le Grand Momo, Mohamed Amimeur, et qui sont des élèves de Titi Pelletier et qui, dans les années 1980 et 1990, vont participer au coup, on va dire, au braquage parmi les plus importants et au casse notamment de centres forts en France.
Oui, on voit bien que c'est une équipe qui a fait des émules et qui a essaimé, évidemment. Encore une question, Brandon Kemet. On n'a rien trouvé dans ce casse, hein. On ne sait toujours pas. Hein. Des années après, on ne sait pas qui a fait quoi et où est passé l'argent. Pourquoi? Parce qu'on sait. On s'était focalisé à l'époque sur Spadjari, sur le casse de Nice qui venait de se passer, et on a oublié celui-là.
Alors c'est sans doute une raison. Ouais. Le casse de Spadjari a vraiment attiré l'attention. On a pu le chiffrer. Il y avait 300 coffres. Et puis aussi comme l'affaire de l'île Saint-Louis est un échec, hein, de la police judiciaire, on l'a sans doute un peu mis sous
la cloche.
Sous la cloche, ouais. C'était pas très très glorieux, on va dire.
Merci beaucoup Brennan Kemet d'avoir été ce soir l'invité de l'heure du crime avec l'affaire du casse de l'île Saint-Louis, les égouts du mystère et ces braqueurs sans visage. Je conseille évidemment la lecture de votre livre que vous avez écrit avec Stéphane Selamy, Maghreb Connection chez Robert Laffont, la saga secrète du grand banditisme français. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Vivian Lecuivre à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.